jamais l'homme n'a été si puissant depuis qu'il parle à la radio.
Auprès de Bachelard.
On ne démontre rien et on essaie de suggérer que ce n'est même pas l'espace, si vous voulez, des grands philosophes qui nous parlent d'espace intelligible, des infinis. Je ne vis pas dans l'infini, car dans l'infini, on n'est pas chez soi.
Et ma vie non plus, cela n'a pas été l'abbaye de Thélème, notait-il en passant. C'était à peu près tout. En revanche, il évoquait volontiers les soirées et les nuits de travail dans de petites chambres sous la lampe. Né en 1884 dans une famille de paysans et de cordonniers de Bar-sur-Aube, il était au départ un simple employé surnuméraire de l'administration des postes. Mais, ajoutait-il, je suis un homme qui a lu. À force d'études, il décroche avant la Grande Guerre une licence de mathématiques et après, tour à tour, un doctorat ès-lettres, une agrégation de philosophie, un doctorat d'histoire des sciences. Il est revenu comme professeur à Bar-sur-Aube, mais muni dorénavant de tels parchemins, il lui faut quitter la petite ville. C'est un arrachement pour lui et pour ses élèves qui gardent le souvenir émerveillé d'un enseigneur enseigné qui faisait cours sur la colline ou la prairie, Socrate à Bar. Gaston est élu à l'université de Dijon, puis à la Sorbonne en 1940. Il publie une douzaine de livres de philosophie des sciences, mais bientôt autant sont consacrés à la poétique. Se laissant guider par l'enfance, Bachelard se met en effet de plus en plus à l'école de l'imagination. Raphaël Kraft avait rencontré il y a une dizaine d'années un de ses étudiants, Hubert Saget, lui-même devenu professeur d'université et élu local d'un canton voisin de Bar. Le docteur Saget pratiquait pareillement un style philosophique du genre rural. « J'aimerais mieux manquer une leçon de philosophie que de manquer mon feu du matin. »
Vous savez quoi, je vais vous allumer un peu de feu. Nous serons mieux dans l'ambiance. Une région boisée comme ça. Vous savez que Gaston Bachelard était de Bar-sur-Aube, tout près d'ici. Il a été encore mon professeur quand il était vacataire à la Sorbonne. C'était le fauve dans l'arène, vous savez. Il était magnifique à voir et à suivre et à entendre. Je n'ai jamais entendu que ses cours portant sur sa philosophie romantique de la nature. L'eau, le feu, la terre, c'est les quatre éléments. Et il ne regardait jamais un papier, il se baladait de long en large, les mains derrière le dos. C'était une figure extraordinaire. Déjà un petit peu, une sorte de hippie avant la lettre, si vous voulez, une barbe comme ça. Quand je l'ai connu, il avait entre 70 et 80 ans. Inutile de vous dire. Et justement, à propos du feu, que lui avait bien connu sous sa forme aussi élémentaire que vous la voyez ici, avec la cheminée, le feu, il faisait remarquer que le monde moderne a projeté des images cosmiques comme le feu et les a transformées en images bourgeoises, comme le chauffage central et les allumettes. Vous voyez tout de suite la dégradation du point de vue esthétique, un gain sur le plan utilitaire, une perte sur le plan de l'esthétique en général. Et il nous parlait de ces belles images qui se développent autour du feu, le feu masculin et la chaleur féminine, le feu qui couvre sous la cendre.
Le feu, mais aussi l'eau, l'air, la terre. Bachelard accorde une importance première aux quatre éléments de la physique antique et à l'imaginaire qu'il porte. Il est assez savant pour avoir compris que la science est toujours à affiner, à construire, c'est une connaissance approchée. L'imaginaire, lui, est d'un autre registre, auquel la pensée n'a pas à dicter son ordre. Si le scientifique a le droit de tâtonner, le philosophe a aussi celui de rêver. Plus le temps passe, plus il en vient à considérer que c'est la rêverie, la disponibilité, plus encore que la science, qui ont donné le sentiment de son existence. Un entretien avec son ami Jean Lescure.
Et je voudrais naturellement avoir vécu autrement, avoir chanté ma colline quand je gravissais les pentes. Il y a des forêts merveilleuses autour de Bar-sur-Aube. On a fait des promenades, j'ai fait des promenades qui ont marqué ma vie, de toutes les façons. C'est mon ce temps-là. Je me contentais d'être un bon marcheur, n'est-ce pas, et de m'arrêter au bistrot pour boire le vin que je ne peux plus me procurer, puisqu'on en fait du champagne pour Américains. si chez moi, si à Barcelone, étant enfant, que j'ai connu les bois sur les plateaux. Il y avait un bois mystérieux qu'on appelait le bois des dames. Dans ce bois, mon grand-père s'y est perdu il y a quelques cent ans. Et alors, par conséquent, cette forêt du bois des dames, c'est une forêt qui m'a certainement marqué. Alors, de temps en temps, vous la traversiez, vous arriviez dans un pays où le vin était extraordinaire. Il fallait pas en boire beaucoup, sans ça, on était sûr de se perdre pour rentrer. C'est ce vin que je ne retrouve plus.
C'est ce vin, d'ailleurs, qui est, a aussi une valeur d'élément dans votre méditation,
oui.
Votre rêverie.
Oui, oui. Mais oui, mais... bien entendu, vous m'avez vu boire quand j'avais ma pleine santé, et vous voyez que tous les vins avaient mon appréciation.
Oui, je vous avais fait les choses qui m'ont le plus étonné, c'est que, au simple goût, vous annonciez non pas seulement la race du vin, mais son année. Ça, je me souviens avoir été très épaté par cela.
Bon, eh ben, vous avez eu tendance à être épaté, parce que je vous ai peut-être bluffé. Je vois un ignorant, un parisien, comme vous étiez.
Mais ça tombait juste.
Ça tombait juste, enfin, bref.
On parlait du vin.
Eh ben, sur le vin, ben, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai toujours vendangé dans ma jeunesse. Mon grand-père avait beaucoup de vignes, mon père en a eu moins. Et puis toutes ces vignes sont disparues, n'est-ce pas? Elles ont été... Oh, c'est une misère, n'est-ce pas?
Mais ensuite, vous êtes retourné, sinon en Champagne, du moins à Dijon.
Ah,
vous y avez connu et aimé un des plus grands écrivains de la campagne, le grand écrivain de la campagne française, qui est Rouppenel.
Oui, 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 oui. Gaston Rouppenel était un homme qui avait 14 ans de plus que moi, mais nous avons, laissez-moi vous dire, était tout de suite en sympathie de modestie. C'est avec lui que je suis allé faire quelques promenades. Il m'a expliqué, bon, ne disons pas la Bourgogne, mais la campagne française, n'est-ce pas? Rouppenel, son père avait été chef de gare à Gevrey-Chambertin, et il avait acheté des vignes dont les meilleurs crus de Chambertin. Je suis allé faire avec ma fille, toute jeune, la vendange. Je voudrais vous savoir l'imiter, mais enfin, vos appareils ne peuvent pas avoir ces finesses. Il me parlait tout doucement, lentement, et il me disait, si vous allez à gauche de la route de Beaune, le vin ne vaut rien. À droite, c'est tout de même... du Bourgogne. Pas. Et alors, il me dit, vous n'avez pas le geste pour imiter ce qu'il disait. Et bien, une toute petite inclinaison, ça suffit. N'est-ce pas? Ça suffit pour concentrer le soleil. N'est-ce pas?
Oui.
Vous voyez? Et alors, il m'expliquait où finissaient les forêts. Il m'expliquait que les forêts n'étaient pas... Il était impossible de les bouleverser, au moins de les détruire, ce qu'on fait maintenant, n'est-ce pas, hein? Il m'expliquait où étaient les ponts. Les ponts, n'est-ce pas? Eh bien, il m'expliquait que ça ne pouvait pas être où étaient les gués.
Alors sans doute Bachelard est-il moins sensible à la stabilité des paysages que Gaston Rouppenel, l'historien des campagnes françaises. Il regarde pousser l'arbre plus que la place des forêts. Et il considère l'arbre à la façon des romantiques allemands. C'est une lampe, une flamme fleurissante, un parfum. Ne devient-il pas d'ailleurs plus odorant lorsqu'il est touché par l'arc-en-ciel? Et c'est au bord de l'eau qu'on goûte le mieux le parfum de l'arbre. La plus belle demeure serait pour moi au creux d'un vallon, au bord d'une eau vive, dans l'ombre courte des saules et des osières. Reflet dans l'eau de Debussy par Cotarot. Fukuma, s'il est un compositeur dont Bachelard se sentait proche, c'est Debussy.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nous sommes en cette veille de Noël en compagnie de Gaston Bachelard, le philosophe à la barbe blanche. La musique, celle de Debussy particulièrement, opère en nous ce miracle de toucher le noyau le plus secret, le point de rencontre de tous les souvenirs. L'oreille et le sens de la nuit, et la musique, l'art de la pénombre. Le dernier livre de Bachelard, publié de son vivant, se nommait d'ailleurs « La flamme d'une chandelle ».
La maison première et oniriquement définitive doit garder sa pénombre. Elle relève de la littérature en profondeur, c'est-à-dire de la poésie, et non pas de la littérature diserte qui a besoin du roman des autres pour analyser l'intimité. Tout ce que je dois dire de la maison de mon enfance, c'est tout juste ce qu'il faut pour me mettre moi-même en situation d'onirisme, pour me mettre au seuil d'une rêverie où je vais me reposer dans mon passé. À quoi servirait-il, par exemple, de donner le plan de la chambre qui fut vraiment ma chambre ? De décrire la petite chambre au fond d'un grenier, de dire que de la fenêtre, à travers l'échancrure des toits, on voyait la colline. Moi seul, dans mes souvenirs d'un autre siècle, peux ouvrir le placard profond qui garde encore, pour moi seul, l'odeur unique, l'odeur des raisins qui sèchent sur la clé. L'odeur du raisin, odeur limite, il faut beaucoup imaginer pour la sentir, mais j'en ai déjà trop dit. Si je disais davantage, le lecteur n'ouvrirait pas dans sa chambre retrouvée l'armoire unique, l'armoire à l'odeur unique qui signe une intimité. Gaston Bachelard, La poétique de l'espace.
Les années qui suivent sa retraite, les honneurs tombent sur Bachelard qui n'en peut mais. Le voilà membre de l'Institut et en 1961, Grand Prix National des Lettres. Cette année-là, qui voit aussi le succès de La poétique de l'espace, une équipe de télévision s'installe dans son minuscule appartement de la place Maubert, bourré de livres, ras la gueule. L'interview est diffusée dans le grand magazine 5 colonnes à la une et devient une séquence culte. Le grand public découvre l'étrange pouvoir de la parole du vieil homme à la barbe blanche qui fait sa juste place à la clarté comme à la rêverie et qu'il ponctue de questions régulières à ses interlocuteurs. Les premiers de ceux-ci que nous allons entreapercevoir, Hubert Knapp et Jean-Claude Bringuier pour 5 colonnes. Et pour la radio qu'il a découvert bien avant la télévision et que Bachelard aimait tant, Paul Chavas.
Dans la maison idéale, les plafonds sont comment ?
Il faut qu'ils soient assez bas. Faut même pas se trouver, n'est-ce pas, dans une maison avec l'impression qu'on a tout le confort, que tout le monde autour de vous est lumineux. Je n'aime pas les éclairages électriques, vous comprenez, hein ? La petite lumière, la lumière familière. Alors là, c'est un élément d'intimité.
Oui, vous parlez de la lampe qu'on voit briller à la fenêtre.
Où c'est que j'ai parlé de ça ?
Dans La poétique de l'espace.
Un peu peut-être. Ah oui, oui, oui. Il y a une belle page que j'ai citée de Rilke. Oui, mais c'est en fonction de Rilke qui voit. Il est avec une amie, comme je sais, fréquemment son loup, et il voit, n'est-ce pas, au lointain, la lampe d'un veilleur, n'est-ce pas ? Oui, 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 oui.
Dans votre maison, dans la maison que vous n'avez jamais habitée, la maison dont vous rêvez, comment
ça ? J'en ai habité les maisons où j'ai rêvé, où je retrouve la possibilité de rêver. Où est-ce que vous êtes né, vous ?
Je suis né à Montpellier.
Oui, eh bien, vous habitiez une maison ?
J'habitais malheureusement un appartement.
Eh bien, voilà, vous n'y connaissez rien.
La chambre était, si vous voulez, quasiment un corps, presque un corps maternel qui nous reçoit la nuit. Et alors, par conséquent, j'ai regardé, si vous voulez, enfin, la poésie du repos. En sous-titre, j'aurais dû mettre, n'est-ce pas, l'espace heureux, c'est l'espace où l'on se repose. Alors, c'est par la maison que j'ai commencé. Puis la maison, je l'ai. J'ai dit toutes ses puissances. Il y a des pages sur la cave et sur le grenier. J'ai montré que l'homme qui va au grenier est un homme plus solitaire. Un enfant va bouder dans le grenier. Hein? Vous n'avez jamais fait cela? Avez-vous eu un grenier dans votre vie?
Bien sûr, heureusement.
Bon, heureusement. Et les femmes ne vont pas à la cave de mon pays. Vous
moi,
alliez à la
moi
cave
non.
Eh
moi
bien
non.
Voilà, par conséquent, vous voyez, voilà la maison qui est caractérisée d'une façon extrêmement sensible.
Si nous devions être architectes de la maison onirique, nous hésiterions entre la maison tierce et la maison quarte. La maison tierce, la plus simple à l'égard de l'essentiel hauteur, a une cave, un rez-de-chaussée et un grenier. La maison quarte met un étage entre le rez-de-chaussée et le grenier. Un étage de plus, un deuxième étage, et les rêves se brouillent. Dans la maison onirique, la topo-analyse ne s'est comptée que jusqu'à 3 ou 4. De 1 à 3 ou 4 s'en vont les escaliers, tous différenciés. L'escalier qui va à la cave, on le descend toujours. C'est sa descente qu'on retient dans les souvenirs. C'est la descente qui caractérise son onirisme. L'escalier qui monte à la chambre, on le monte et on le descend. C'est une voie plus banale, il est familier. L'enfant de 12 ans y fait des gammes de montée, faisant des tierces et des quartes, tentant des quintes, aimant surtout 4 marches par 4 marches, faire ses enjambées. 4 à 4 monter l'escalier, quel bonheur crural. Enfin, l'escalier du grenier, plus raide, plus fruste, on le monte toujours. Il a le signe de l'ascension vers la plus tranquille solitude. Quand je retourne rêver dans les greniers d'antan, je ne redescends jamais.
Pour le nid, chose curieuse, j'ai été tout de suite embarrassé. N'est-ce pas ? Il y a des choses absolument ridicules. Les amoureux disent « Nous serons heureux dans notre nid ». Ben non, vous ne voyez pas des amoureux heureux dans un nid. C'est stupide, n'est-ce pas ? L'image est banale. Mais si vous regardez, vous aurez alors des poésies du nid. Le nid vrai, le nid des oiseaux. Et alors, j'ai eu beaucoup de peine à construire ce chapitre. Hein, parce que je me butais à des leitmotifs. Après, j'ai fait un chapitre qui m'a causé beaucoup de peine, qui m'a demandé beaucoup de lecture, c'est la coquille. La coquille, vous voyez, alors, c'est un espace très défendu, mais c'est un espace alors de repos. Alors, là, encore, il n'y a pas une idée à moi. J'ai épuisé toutes les images que j'organise dans les livres. Alors là, je suis un peu dévié des poètes. J'ai, par exemple, lu et commenté un étrange chapitre de Bernard Palissy qui avait, si vous voulez, la hantise de la coquille. Il imaginait qu'on allait faire une ville fortifiée, comprenez-vous, sur le plan d'une coquille. Alors tout cela est dans mon livre. Et ensuite, je suis venu, si vous voulez, à des espaces plus petits, mais qui sont valorisés. Alors les armoires, vous voyez qu'est-ce qu'il y a comme poésie d'armoire. Maintenant, évidemment, le mobilier américain qu'on nous présente ne correspond pas à cette poésie que je voudrais défendre. Toute une armoire, il faut qu'elle soit vieille, il faut qu'elle soit ancienne, il faut qu'elle soit en bois, en chêne, enfin, qu'elle ne soit pas d'hier.
C'est ça, une part de mystère.
Mystère.
De souvenirs.
Ou puis les cachotteries. Il n'y a pas de mystère sans cachotterie, n'est-ce pas ? D'où le tiroir. D'où le tiroir, comprenez-vous ? Les sachets, vous voyez, j'aurais pu là-dessus, j'avais beaucoup plus de documents que je n'en ai mis. Seulement alors, c'est si évident qu'on aime avoir, si vous voulez, une boîte particulière pour les lettres. Je ne sais pas si ça se fait maintenant dans votre génération, mais les roses fanées, madame. Les rubans.
Il n'y a plus beaucoup de rubans.
Il y avait beaucoup de rubans. Il y avait beaucoup de rubans. Non, bon. N'est-ce pas ? Hein ?
Et a-t-il un seul rêveur de mots qui ne résonnera pas au mot armoire ? Armoire, un des grands mots de la langue française à la fois majestueux et familier. Quel beau et grand volume de souffle ! Comme il ouvre le souffle avec la de sa première syllabe et comme il le ferme doucement, lentement, en sa syllabe qui expire. On n'est jamais pressé quand on donne aux mots leur être poétique, et le d'armoire est si muet qu'aucun poète ne voudrait le faire sonner. C'est peut-être pourquoi, en poésie, le mot est toujours employé au singulier. Au pluriel, la moindre liaison lui donnerait trois syllabes. Or, en français, les grands mots, les mots poétiquement dominateurs, n'en ont que deux. Et à beaux mots, belles choses, aux mots qui sonnent gravement l'être de la profondeur. Tout poète des meubles, fût-ce un poète en sa mansarde, un poète sans meubles, c'est d'instinct que l'espace intérieur à la vieille armoire est profond. L'espace intérieur à l'armoire est un espace d'intimité, un espace qui ne s'ouvre pas à tout venant. Et les mots obligent. Dans une armoire, seul un pauvre dame pourrait mettre n'importe quoi. Mettre n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quel meuble, marque une faiblesse insigne de la fonction d'habiter. Dans l'armoire vit un centre d'ordre qui protège toute la maison contre un désordre sans bornes. Là règne l'ordre, ou plutôt là l'ordre est un règne. L'ordre n'est pas simplement géométrique. L'ordre s'y souvient de l'histoire de la famille. Avec la lavande, entre aussi dans l'armoire l'histoire des saisons. À elle seule, la lavande met une durée bergsonienne dans la hiérarchie des draps. Ne faut-il pas attendre, avant de s'en servir, qu'il soit, comme on disait chez nous, assez lavandé ? Que de rêves en réserve, si l'on se souvient, si l'on retourne au pays de la vie tranquille. En foule, les souvenirs reviennent, si l'on revoit dans la mémoire le rayon où reposaient les dentelles, les batistes, les mousselines posées sur de plus dures étoffes. L'armoire, dit Miloche, est toute pleine du tumulte muet des souvenirs.
Vous savez, la racine d'iris, eh bien, elle parfumait des armoires pour la vie. Et puis, chaque armoire a son individualité. Vous savez, les ébénistes de village, n'est-ce pas, du temps passé, il y a toujours un petit secret particulier. Elles sont individualisées. Et donc, par conséquent, elles tiennent une poétique de l'espace. Vous voyez d'où le titre vient. C'est ainsi que dans ce livre-là, j'ai parlé de la poésie des coins. Un enfant qui se met au coin de l'appartement. On le laisse tranquille, n'est-ce pas,
hein? Mais vous avez dit le coin, c'est une demi-boîte.
Oui, parce que c'est toujours ouvert. Vous voyez. Alors tout est nuance. Il y a des enfants qui se cachent dans une armoire. Dans un placard. En lisant les poètes, souvent, j'ai trouvé une note très, très, très particulière que je reconnaissais. Voyez-vous, je cherche le particulier, je cherche l'image particulière qui tout de même me donne l'impression que j'ai pu vivre ça, ou j'aurais pu le vivre, oui, il ne fallait rien pour que je rêve dans cette direction.
Vous dites aussi, il y a toujours davantage dans un coffret fermé que dans un coffret ouvert.
Bon, un coffret ouvert, il n'y a plus rien, n'est-ce pas ? Un coffret fermé, c'est pas si... c'est tout le secret. On pourrait faire des tas de choses là-dessus. Le coffret où... une femme conserve des lettres de ses amours, et ça ne ressemble pas du tout au coffret où un capitaliste met ses bijoux. Bah, mettez-vous des bijoux dans un coffret, ou mettez-vous une vieille rose. Vous n'avez pas de coffret, vous ?
Je n'ai pas de coffret, non.
Eh ben, moi, vous êtes un homme moderne, n'est-ce pas, hein ?
Je pense au coffret de votre capitaliste, ce n'est qu'un coffre-fort, ce n'est plus un coffre-fort.
Ah bon, vous chaud, c'est pas ce que c'est, je n'ai pas de coffre-fort. N'est-ce pas ?
On a envie de dire que, que vous êtes un philosophe du bonheur. C'est rare, un philosophe du bonheur.
Tout le monde peut l'être. J'ai trouvé mon bonheur dans les choses qui étaient ma vie réelle. Disons tout simplement que j'ai travaillé avec bonne humeur. Mais le bonheur, vous savez, la vie n'a pas toujours été pour moi, n'est-ce pas ? Une habilité d'aime ? Non. Philosophe du bonheur, c'est-à-dire que... Et puis alors, je n'ai écrit que les choses qui ne devaient tout de même pas contrister mes lecteurs. On m'a fait bien des confidences dans les livres que j'ai pu écrire. Les choses qui étaient... Enfin, qui ne relevaient pas de votre définition du bonheur. On pense que l'humanité, c'est de les garder dans le silence. Prenez-vous. Que mes livres fuient, si vous voulez, les aspects dramatiques de la vie, c'est pas pour ça que je les ai connus. Vous voyez. Alors, ne me faites même pas trop pleurer. Vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous allez trouver le moyen de vous mettre 6 ou 7 dans 16 mètres carrés. Alors, ne dites pas que vous sortez, n'est-ce pas, dans une maison, enfin, boum, 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 hein, où on respire le bonheur, hein. Vous voyez comment la vie change, n'est-ce pas? Je pense que, quelquefois, je suis à moi sans sortir de cette chambre, mais je suis à 10, n'est-ce pas, hein. Quelle promenade j'ai fait. Mais il faut changer. Il ne faut pas vouloir faire ce qu'on ne peut pas faire.
Et, à l'œil qui sait voir, tout est paradis. L'homme qui parlait ainsi avait 77 ans en 1961. Il était perclus de douleur à peu près, immobilisé. Pendant la Grande Guerre, il avait passé 38 mois au front. Il avait perdu sa femme aussitôt après. Il avait élevé seul sa fille, Simone. Mais il en avait reçu beaucoup en retour. Ce sont les bienfaits qui comptent. Bachelard est mort l'année suivante, en 1962. Il est enterré à Bar-sur-Aube. Cette émission a été initiée et préparée par Franck Olivard, avec la réalisation Valérie Aestaray. La technique, c'était Vincent Godard. Et les entretiens que nous avons rediffusés ont été réalisés soit pour la télévision par Hubert Knapp et Jean-Claude Bringuier, soit pour la radio par Jean Lescure et Paul Chavas. La semaine qui vient, un programme spécial que nous avons intitulé « L'Opéra s'amuse » et qui nous emmènera du théâtre de foire à la foire Saint-Germain jusqu'à la comédie musicale.